Donc maintenant, merci.
Alors vous le savez sans doute, lire la Bible est une découverte toujours recommencée. Et partir à la découverte des femmes dans la Bible est une aventure pleine de surprises. J'avais une idée toute faite qu'il y avait peu de femmes dans la Bible. Eh bien, mon idée maintenant est qu'il se passe beaucoup de choses dans la Bible grâce aux femmes, avec elles et par elles. Donc, merci de m'avoir proposé ce travail, parce que j'ai changé d'avis et je n'ai pas fini d'en faire le tour. Hein, voilà. Donc, il ne s'agit ici que de livres qui sont dans ma bibliothèque et deux ou trois que j'ai commandés en plus pour ce travail. Mais si vous allez sur Internet, etc., vous verrez qu'il y a 50 fois plus de livres sur les femmes dans la Bible. Mais ceux-là, je peux vous les recommander parce qu'ils sont accessibles, pas comme le petit mot à l'arrière du livre de Catherine Chalier, là, qui est un peu compliqué. Alors, commençons par quelques chiffres. Voilà, ça ne fait pas de mal, ça donne une idée. 1182 emplois du mot « femme » dans la traduction œcuménique de la Bible, dont 775 dans le Premier Testament hébreu, une fois le mot « femme » dans le Premier Testament araméen, 164 dans le Premier Testament grec et 242 dans le Second Testament. Le mot « fille », lui, est employé 587 fois dans la traduction œcuménique de la Bible, 490 fois dans le Premier Testament hébreu, 64 dans le Premier Testament grec, 33 dans le Second Testament. Parmi ces femmes, il y a beaucoup d'anonymes. Une femme. Point. Une femme. Il y a aussi de nombreuses femmes d'eux. Femmes d'un homme, femmes d'un roi, ou encore femmes habitant un lieu. Il y a aussi de nombreuses filles, nous en parlerons. Filles d'un père et quelques sœurs. Certaines ont un métier qui est spécifié, d'autres sont étrangères, et il y en a plus que je ne croyais. D'autres sont encore veuves. Alors je pourrais vous parler de toutes les femmes de la Bible si nous avions toute la nuit jusqu'au petit déjeuner demain matin. Toutes les femmes de A à Z, c'est-à-dire toutes les femmes de A comme Abigaël, jusqu'à Z comme Zilpa. Mais non, je ne le ferai pas. Je ne vous parlerai pas non plus trop de femmes connues. Ça n'a pas trop d'intérêt. Celles qui ont traversé les siècles de l'histoire jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous emmener plutôt à la découverte de quelques anonymes, de quelques femmes que l'on appelle aussi de mauvaise vie, car la Bible est tout sauf un livre de morale, de femmes étrangères au judaïsme, à la rencontre de femmes aussi qui ont subi la violence des hommes, comme de femmes qui ont commis des actes de violence, et encore d'autres. Un des points communs, je dirais, aux femmes de la Bible, est qu'elles sont justement hors du commun quand elles ont une histoire dans la Bible et qu'elles ont un nom. Il n'y a alors rien de banal dans leur vie. Au contraire, ces femmes nous surprennent par leur liberté, leur persévérance, leur créativité, au sein même d'un peuple, d'une société, d'une cité qui les tient fermement dans un cadre de loi prévu par les hommes. Derrière certaines histoires simples se cachent des vies très inattendues que l'on ne peut soupçonner aujourd'hui. Aussi, je vais dégager des portraits ce soir qui auront vocation, je l'espère, à vous conduire à nouveau dans la lecture de ce livre de la Bible, cette bibliothèque, comme l'on dit, pour vous laisser surprendre par les femmes qui se sont glissées dans cette histoire de témoins écrite par des hommes. Vous n'entendrez pas de biographie complète, j'esquisserai des portraits, juste pour vous donner envie. Vous savez, vous mettre en appétit, puis vous alliez voir la Bible après. Juste pour mettre en lumière un trait de caractère, un détail qui révèle une personnalité. Et peut-être aurez-vous la surprise de reconnaître dans le portrait de ces femmes une de vos joies, une angoisse que vous avez partagée, un refus ou un choix de votre vie d'aujourd'hui. Alors avant de nous aventurer ensemble vers toutes ces femmes, laissez-moi vous dire le portrait de la femme idéale. Eh oui, parce qu'il paraît qu'il y en a une, mais ça c'est les hommes hein, qui disent ça. Brossé par le livre des Proverbes. Parole de Lemuel, portrait de la femme vertueuse, au chapitre 31 du livre des Proverbes. Qui peut trouver une femme vertueuse? Ça commence bien parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle n'existe pas. Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et donne de la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du furet de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisi. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et les vends, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et des instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, elle ne mange pas le pain de paresse. Elle veille sur ce qui se passe, hop, je le redis, ses fils se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes ses œuvres la louent. Je comprends qu'elle n'existe pas parce qu'au bout d'une semaine, elle doit être épuisée. Par contre, pour faire le pendant, parce qu'il y a toujours un pendant à l'idéal, voici ce que nous dit le livre du Siracide, qui nous décrit sans complaisance le portrait de la mauvaise femme. N'importe quelle blessure, sauf une blessure du cœur, n'importe quelle méchanceté, sauf la méchanceté d'une femme. N'importe quelle affliction, sauf l'affliction causée par la haine, n'importe quelle vengeance, sauf la vengeance des ennemis. Il n'est pire venin que venin de serpent, ni colère pire qu'une colère de femme. J'aimerais mieux habiter avec un lion ou un dragon que d'habiter avec une femme mauvaise. La méchanceté d'une femme transforme son aspect et son visage assombri lui donne l'air d'un ours. Son mari prend place au milieu de ses voisins et malgré lui gémit amèrement. Toute malice est peu de choses près de la malice d'une femme que le sort du pécheur lui échoit. Une montée de sable sous les pieds d'un vieil homme, telle est la femme bavarde pour un homme tranquille. Ne te laisse pas entraîner par la beauté d'une femme et garde-toi de convoiter une femme. Qu'ils s'attendent à des éclats, des insolences et une grande honte, le mari que sa femme entretient. Cœur abattu, visage renfrogné et plaid du cœur, voilà l'œuvre d'une femme méchante. Mains inertes et genoux paralysés, voilà l'œuvre de celle qui ne rend pas heureux son mari. La femme est à l'origine du péché, oui, et c'est à cause d'elle que nous tous nous mourrons. Cela se passe de commentaires, ça c'est moi qui l'ajoute. Alors, entrons dans le vif du sujet. Continuons avec des mères. Si je ne parle pas dans le micro, vous me dites parce que je bouge un peu. Voilà. Continuons donc avec des mères. Trois femmes connues, les femmes des patriarches, femmes d'Abraham, femmes d'Isaac, femmes de Jacob, ont au moins deux points communs. Être femme de l'un des patriarches, mais aussi d'être toutes les trois stériles. Or, la stérilité est aussi caractéristique d'une mauvaise épouse dans la Bible. puisque la bonne épouse, elle, est grandie par sa fécondité. Sarah, au chapitre 12 et suivant du livre de la Genèse, Sarai est dans une situation impossible. L'Éternel a promis une nombreuse descendance, et pour elle, pas d'enfant. Pas d'enfant pendant les 10 années qui vont suivre cette promesse divine. Alors, Sarai va prendre les choses en main. Ce n'est pas à l'Éternel qu'elle va s'adresser. Elle va utiliser une solution maison. Elle propose sa servante Agar à son mari et elle adoptera l'enfant né de cette union. Abraham ne dit mot et se soumet au désir de sa femme. Cependant, après la naissance d'Ismaël, Abraham sera pris dans la tourmente née entre les deux femmes, tourmente inévitable, car est-il possible de se construire, c'est le mot hébreu, comme femme, avec un procédé boiteux et en se servant des autres pour combler son désir, fût-il légitime. En croyant faire plaisir à sa femme, Abraham lui fait violence. L'Éternel va alors intercéder en faveur du couple, d'abord en donnant un nouveau nom à chacun. Abraham, à 99 ans, va devenir Abraham, père d'une multitude. Et Sarai devient Sarah, non plus la princesse de son père, mais princesse. Ces ajustements de nom vont ouvrir une relation féconde. Enfin, Sarah aura un fils, Isaac. Mais la femme d'Isaac aussi est stérile. Femme de caractère aussi et de décision, Rebecca, en Genèse 24, quitte les siens, sans attendre pour rejoindre son inconnu de mari. Ils auront tout pour être heureux, Isaac et Rebecca, argent, troupeau, serviteur, tout, sauf un enfant. Très longtemps, longtemps après, Rebecca, avec une grossesse éprouvante, met au monde les jumeaux Ésaü et Jacob. Très vite, Rebecca préféra à la force de la nature qu'était Ésaü, le fragile Jacob. Et elle favorisera celui-ci et se désespérera de l'aîné qui ne pensait qu'à la chasse et qui de plus a épousé des femmes étrangères. Quant aux femmes de Jacob, ce fut compliqué dès le début. Genèse 20 et 30. Jacob tomba amoureux de Rachel, mais il lui fallut d'abord épouser sa sœur aînée, Léa. Et Léa, qui se reconnaissait comme l'épouse de la moins aimée, était féconde et n'arrêtait pas de mettre des enfants au monde, alors que la femme du désir, Rachel, était elle stérile. Jalouse et très en colère, Rachel va utiliser le stratagème de Sarah et proposer sa servante Bilha à son mari Jacob. Servante qui donnera 2 fils que Rachel, selon la coutume, recevra sur ses genoux. Et Léa, fatiguée par les grossesses, enverra à son tour sa servante Zilpa auprès de Jacob pour se faire remplacer dans le devoir conjugal. Vint enfin le jour où Rachel va enfanter un fils, Joseph. Lors du chemin de retour de Bethel à Hébron, Rachel est à nouveau enceinte, mais elle mourra en donnant naissance au dernier-né de la famille, à Benjamin. Et Rachel sera enterrée sur place à Bethléem. Que dire alors de ces femmes, de ces matriarches ? Ces femmes ont les qualités et les défauts des humains, hommes et femmes. Hospitalité, ténacité, amour, mais aussi jalousie, désir de possession et ruse. Mais elles veulent aussi répondre à leur vocation. Cette vocation qui est la leur, donner naissance et particulièrement à des fils. Il est à noter que jamais l'auteur biblique ne porte de jugement sur les faits qu'il rapporte, comme si tout cela était normal. y compris l'invention de ce que nous appelons aujourd'hui les mères porteuses. Nous pouvons constater, au contraire d'autres peuples, qu'Israël n'a pas inventé des êtres glorieux de légende pour installer la genèse de son histoire. Nous avons ici de la pâte humaine dans sa fragilité et dans sa puissance de désir, pâte humaine à laquelle l'Éternel ne craint pas de se mêler sans faire lui non plus de manière. À travers les destinées de ces femmes, nous saisissons ce visage de l'Éternel qui n'attend pas des humains, de vous et de moi, qu'ils soient parfaits, ce qui est attendu de nous, bien au contraire, et que nous laissions l'Éternel féconder nos vies là où elles en ont besoin. Rien à voir ici avec la morale. C'est une question de consentement. Dire oui à l'Éternel à chaque instant de sa vie. Aventurons-nous maintenant vers d'autres femmes pour lesquelles le désir d'être mère sera plus puissant que tout. D'abord, les filles de Lot. Genèse 19. Rappelez-vous, lorsque Sodome est plongée dans les flammes et le soufre, toute la famille de Lot, accompagnée par les anges, s'enfuit avec l'ordre de ne pas se retourner. L'épouse de Lot, par curiosité ou par tristesse de laisser derrière elle sa maison et ses biens, se retourne et est aussitôt transformée en statue de sel. Lot alors se réfugie plus loin dans une grotte avec ses filles, qui constatent dans les jours qui suivent qu'il n'y a point d'hommes dans ce pays. Comment vont-elles donc se construire comme femmes? Comment vont-elles accomplir leur devoir de maternité? L'aînée propose alors de faire boire son père avant de coucher avec lui. Elle savait qu'à jeun, son père Lot aurait absolument refusé. L'aînée couche donc avec son père enivré, suivi le lendemain par la plus jeune. Lot alors eut une descendance avec ses petits-fils Moab et Ben-Ami, ancêtres des Moabites et des Ammonites, les Moabites dont est issue Ruth, que nous retrouverons plus loin. Mais que dire de cette transgression par les filles de Lot du tabou universel de l'inceste? L'auteur biblique n'en dit rien. Mais rappelons-nous seulement qu'à Sodome, Lot était prêt à donner ses filles aux Sodomites en échange des anges menacés violemment par la foule. De part et d'autre, des violences. L'une pour la mort, certainement, celle des filles jetées à la foule. L'autre pour la vie, la naissance des petits-fils. Et terminons ce chapitre des mères avec une autre femme, Tamar. Cette femme fait partie de la généalogie de Jésus, donnée par Matthieu au chapitre 1 de son évangile. Au verset 3, vous avez ceci: Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Et vous trouverez l'histoire de cette Tamar au chapitre 38 de la Genèse. Tamar veut dire palmier en hébreu, l'arbre qui par sa robustesse et sa beauté est figure du juste. Femme comme tant d'autres, manipulée par des hommes, victime de leur bon vouloir, Tamar va épouser le fils aîné de Judas, qui en a trois, fils qui va rapidement mourir. Selon la coutume, Elle va être donnée en mariage à Onan, le second fils. Mais Tamar est méprisée par son mari car il ne veut pas donner de descendance à son frère. La Bible dit que l'Éternel le fit mourir, car il avait gaspillé sa semence de vie dans la terre. À nouveau veuve, Tamar devait recevoir le troisième fils de Judas pour mari. Mais Judas, son beau-père, la chasse, pensant que c'est elle qui fait mourir ses fils. Victime de la peur, du mensonge et de l'injustice, Tamar, dans une situation inextricable pour une femme à cette époque-là, ne se résigne pas. Quelque temps plus tard, elle tend un piège à son beau-père, en se déguisant en prostituée et en se situant au bord de la route. Ne reconnaissant pas sa bru, qui est voilée, Judas se laisse aller au désir avec cette femme qu'il considère comme une prostituée. Et il négocie l'instant avec elle contre un chevreau. Mais n'ayant pas le chevreau sous la main, puisqu'il est en route vers sa maison, Judas, à l'insistance de Tamar, va laisser en gage son cordon et son bâton. Tamar se retrouve enceinte, et comme le veut la coutume, du même sang que celui de son mari. Et lorsque la grossesse commence à se faire voir, eh bien, les rumeurs commencent, elles, à circuler. Et Tamar est menacée de mort pour mauvaise conduite. Mais elle va confondre Judas avec les trois gages qu'il a laissés. Et Judas, en les reconnaissant, avoue qu'il a été injuste envers elle en la chassant et en l'abusant. Tamar a joué son va-tout. Elle a osé affronter un homme qui a plus de pouvoir qu'elle. Pourtant, cet homme, Judas, va se reconnaître fautif sur toute la ligne et élever ses enfants, petits-enfants. Tamar est reconnue juste par Judas. Elle a eu l'audace de la vie contre la peur et le mensonge. Bien sûr, ce qu'a fait Tamar n'est pas moral, mais ce qu'a fait Judas non plus. Comment légitimer un inceste? Une fois encore, le narrateur biblique raconte les faits et ne juge pas. Il raconte sans condamner et sans justifier. Ce n'est pas la morale qui est ici en jeu, mais la vie. Celle de Tamar, celle de Judas et de toute sa famille. Poursuivons notre aventure avec des femmes de caractère. C'est vrai que Sarah, Tamar ou même les filles de Lot ont elles aussi de la personnalité. Elles ont fait face à l'adversité et ont répondu, quel que soit le moyen, à leur devoir de maternité. Cependant, arrêtons-nous un instant sur l'histoire de cinq sœurs que vous retrouverez dans le livre des Nombres au chapitre 27. Makhla, Noah, Ogla, Milka et Tirsta sont les filles de Tselophépad, au temps de Moïse. Leur père vient de mourir et il n'a pas de fils. C'est le temps où seuls les fils héritaient de leur père. Alors les sœurs se présentent devant Moïse, devant Éléazar, devant les princes et l'assemblée, et défendent la postérité de leur père. Elles disent « Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'a point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Alors, Moïse va porter leur cause devant l'Éternel et l'Éternel va donner raison aux cinq sœurs. C'est ainsi que ces cinq sœurs ont fait modifier la loi sur les héritages.
Cependant, les fils de la tribu de Joseph, qui veillaient au grain, sont venus contester cette nouvelle législation. En effet, qu'adviendra-t-il du patrimoine donné ainsi à des filles si elles épousent un étranger ? C'était quand même interdit, mais Moïse a lui-même épousé une étrangère. Alors Moïse statua : toute fille qui héritera de son père ne pourra épouser qu'un homme de la tribu de son père. Ainsi, les filles de Tselophépad épousèrent des fils de leurs oncles et leur part d'héritage resta dans la tribu. Continuons avec des femmes d'espérance. Nous connaissons presque par cœur la sortie d'Égypte et la libération du peuple des Hébreux de l'esclavage. La mer fendue en deux, la mort de Pharaon et de ses troupes englouties. Mais nous oublions souvent que cette sortie, cette libération, doit beaucoup aux femmes qui se sont liguées contre la mort. Tout commence par le décret du nouveau roi d'Égypte, qui trouve le peuple des esclaves décidément trop nombreux et trop puissants. Exode 1. Et qui, par peur, va donner l'ordre de tuer tous les bébés mâles de ses esclaves dès leur naissance. Cet ordre est d'abord donné aux sages-femmes. Tuez les garçons et gardez les filles. Mais les sages-femmes du peuple hébreu craignent l'Éternel. Elles vont rester fidèles à leur vocation et agir avec ruse. Convoquées par Pharaon, qui constate tous les enfants encore en vie, et notamment tous les garçons, les sages-femmes répondent que les femmes des Hébreux sont tellement robustes qu'elles accouchent toutes avant qu'elles soient arrivées. La ruse semble marcher un certain temps, jusqu'à ce que Pharaon ordonne à son peuple de jeter dans le fleuve tous les fils qui naissent chez les Hébreux. C'est alors que d'autres femmes vont entrer en jeu. L'une d'elles réussit à garder son fils avec elle pendant 3 mois, mais elle ne peut le garder plus longtemps. Alors elle décide d'obéir à sa manière à Pharaon. Elle fabrique une corbeille, y installe son fils et le place dans les roseaux. La mère laisse la grande sœur de l'enfant en veilleur le long de la rive. Bien elle lui en a pris, car la fille de Pharaon vient se baigner juste à côté. Elle découvre la corbeille, voit l'enfant et a pitié. C'est alors que la grande sœur s'approche doucement et propose une nourrice pour allaiter l'enfant. Au oui de la princesse, la grande sœur va quérir la mère de l'enfant, qui prend l'enfant et l'allaite. Quand il eut grandi, l'enfant retourna vers la fille de Pharaon, qui le nomma Moïse, qui veut dire « tirer des eaux ». La grande sœur s'appelle Myriam, la mère se nomme Jochébed, qui veut dire « gloire de l'Éternel ». Voici des femmes courageuses, non seulement courageuses, mais pleines d'espérance, ou courageuses parce que pleines d'espérance. La mère et la sœur de Moïse et la princesse, fille de Pharaon, car celle-ci désobéit à son père, car elle aurait pu faire exécuter l'enfant en lui obéissant. Mais non, elle prend l'enfant dans sa cour, et Moïse va grandir jusqu'à l'âge adulte dans la cour de Pharaon. Quant à Myriam, elle a un culot incroyable, car en proposant une nourrice, elle devance le désir de la princesse de sauver l'enfant. Et l'enfant est ainsi confié à sa mère, qui a eu à la naissance la force de garder son enfant en le cachant. l'union de ces trois femmes va faire échec au plan de Pharaon. Moïse, introduit à la cour, deviendra celui qui sauvera les Hébreux de la mort dans l'esclavage. N'oublions pas que les femmes de ce sauvetage ne sont pas nommées quand ce récit est raconté dans la Bible. Elles sont juste femmes de ou filles de. C'est seulement après, bien après, que la sœur de Moïse deviendra Myriam, et Myriam un prophète. Elle fait partie de ces humains dont le rôle est de regarder au-delà des événements pour annoncer quelque chose de nouveau, d'inouï. Retrouvons-là justement cette Myriam, après le passage de la mer des joncs, en Exode 15. Sur le rivage, Moïse et les enfants d'Israël chantent un cantique à l'Éternel après avoir été sauvés par ce passage à pied sec au milieu de la mer des joncs. Ce cantique à l'Éternel, entonné par Moïse et les enfants d'Israël, compte 18 versets. Le narrateur biblique en donnera un au chant de Myriam et des femmes. Judith Plasco, qui est professeure d'études religieuses à New York, parle à cet instant du grand silence de la Bible. Ces événements fondateurs sont mis par écrit par des hommes qui rendent les femmes invisibles. Ils les relèguent à l'arrière-plan. Car il est plus que vraisemblable que ce cantique dit de Moïse a aussi été chanté par les femmes et par Myriam, qui sans doute ont repris chaque strophe après les hommes. Pourquoi le narrateur biblique relègue-t-il toujours les femmes en arrière-plan? Comment imaginer que ces femmes qui ont porté aussi le joug de l'esclavage, qui ont aussi partagé les peines et les joies en Égypte, qui ont aussi et surtout contribué au sauvetage, soient ainsi laissées dans l'ombre? Ce n'est d'ailleurs qu'à l'instant du cantique que la sœur de Moïse sera nommée, c'est-à-dire après le passage de la mer des joncs, qu'elle sera nommée Myriam et qualifiée de prophète. L'auteur ajoutera quand même qu'elle est la sœur d'Aaron. Mais si vous relisez la Bible, jamais vous ne lirez que Moïse et Aaron sont les frères de Myriam. Pourtant, si Moïse a la vie sauve, s'il deviendra le sauveur du peuple choisi par Dieu, c'est bien grâce à Myriam, sa sœur. Mais celle-ci doit conquérir sa place. Et nous le verrons à nouveau dans le livre des Nombres au chapitre 12. La situation n'est pas excellente dans la famille de Moïse. Myriam et Aaron critiquent leur frère qui a épousé une étrangère. Derrière ce reproche se cache bien sûr un conflit d'autorité. En Nombre 12, nous entendons cette phrase « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle ? N'est-ce pas par nous aussi qu'il parle ?» disent Myriam et Aaron. Ils prennent ensemble la parole pour faire ce reproche, aussi bien à Moïse qu'à l'Éternel. Mais seule Myriam sera punie en étant atteinte de la lèpre. Comme si l'Éternel voulait lui donner à elle, femme, le temps de réfléchir. Elle sera mise 7 jours en quarantaine, mais pendant ces 7 jours, le peuple ne bougera pas d'un pas, comme s'il ne pouvait pas avancer sans Myriam. La vie de cette femme est associée à l'eau du début jusqu'à la fin. D'abord au bord du Nil, où son frère sera déposé dans la corbeille, ensuite sur le rivage de la mer des joncs, avec ce cantique, puis enfin à sa mort dans le désert de Sin, au moment où Myriam rend l'esprit, l'eau disparaît dans les points d'eau du désert. Alors que garder en mémoire de cette femme? Myriam a été certainement la représentante privilégiée des femmes de ce peuple. Femme qui n'existe pas, dont on ne parle pas, alors que sans elle, rien ne se fait dans ce peuple. Beaucoup de personnalités, mais aussi beaucoup de faiblesses pour Myriam. Mais la Bible jamais ne craint de montrer les ombres des grandes figures de la foi, qu'elles soient hommes ou qu'elles soient femmes. Et puisque nous avons parlé de Myriam, prophète, nommons les autres femmes prophètes. Vous avez Hulda, qui transmet la parole de l'Éternel au roi Josias, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 22. Vous avez Anne, la fille de Phanuel, au temple de Jérusalem, qui accueillera Marie et Joseph avec leur premier-né, dans l'évangile de Luc, au chapitre 2. Les quatre filles de Philippe de Césarée, dans le livre des Actes, au chapitre 21. Et nous avons aussi Déborah, dans le livre des Juges, au chapitre 4 et 5. Arrêtons-nous un instant sur cette Déborah. Au temps où les femmes parlaient et les hommes écoutaient ces femmes, il y avait une femme prophète du nom de Déborah, prophète et juge en Israël. Je vous rappelle que les juges sont avant les rois. Elle siégeait sous un palmier, cette femme Déborah, et c'est là qu'on allait la consulter. Même si Déborah allait aussi au-devant des uns et des autres pour transmettre la parole de l'Éternel. Un jour, Déborah fait appeler Barak, homme vigoureux, et lui demande au nom de l'Éternel de lever une armée contre l'ennemi de Canaan. Barak exige que Déborah vienne avec lui. Ce qu'elle fait. Mais Déborah ajoute, avant de partir, à Barak que la victoire sera l'œuvre et la gloire d'une femme. Et il en fut ainsi. La victoire fut acquise grâce à la ruse d'une femme nommée Yaël. Celle-ci fracassa la tête du général de l'armée adverse, Sisera, après qu'elle l'eut accueilli dans sa maison, avec un lourd piquet de tente pendant son sommeil. Pourtant, il avait trouvé refuge chez elle. Elle l'avait accueilli, nourri et caché. Qu'a voulu donc Yaël à travers ce geste? A-t-elle voulu humilier Barak, qui ne voulait pas partir seul à la guerre, qui voulait être accompagné de Déborah? A-t-elle voulu venger toutes ses épouses, toutes ses mères et toutes ses filles de soldats tuées dans ces combats? La Bible ne dit rien sur les intentions de Yaël. Sauf que c'est avec des femmes, Déborah et Yaël, que l'Éternel délivra son peuple qui était resté pendant 20 ans sous le joug tyrannique du roi des Cananéens. Déborah ne cessa de chanter le sang-froid et la puissance des filles d'Israël avec le cantique que vous retrouverez au chapitre 5. Les années passèrent, Déborah toujours prophétisa sous le palmier jusqu'à sa mort. Un jour, les hommes coupèrent le palmier. C'est alors que les femmes se turent. Quelques mots sur la prophétesse Anne. J'aime pas bien, hein, prophétesse, prophète Anne. Écoutons l'évangéliste Luc au chapitre 2. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer, Voyez, on ne peut pas nommer une femme sans dire d'où elle vient, d'un père. A vécu 8 ans avec son mari avant d'être veuve. Elle ne quittait pas le temple, servant l'Éternel nuit et jour par la prière et le jeûne. Elle louait l'Éternel et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Joseph et Marie vont entrer dans le temple pour la purification rituelle après une naissance. Après avoir rencontré le vieux Siméon, le jeune couple croise une très vieille dame, Anne, qui ne leur dit rien, mais qui prie l'Éternel. Ce prénom de Anne est donné à un homme et 4 femmes dans la Bible. L'homme sera le grand prêtre, beau-père de Caïphe, qui sera en place au Sanhédrin au temps de Jésus. La mère du prophète Samuel, épouse d'Elkana, se prénomme Anne, elle aussi. L'autant stérile, elle promet le fils qui lui sera donné au service de l'Éternel. Quant à la femme de Tobie, mère du jeune Tobie, se nomme aussi Anne, et elle assume la charge familiale quand son mari devient aveugle. Et la tradition nomme aussi Anne, la femme de Joachim, parent de Marie, mère de Jésus, mais celle-ci n'est pas nommée dans la Bible. Changeons de registre et tournons-nous vers une femme amoureuse et aimée. L'amoureuse anonyme du Cantique des Cantiques fait résonner sa voix tout au long du livre, en dialogue avec elle-même, avec d'autres femmes et avec son amie. Dans ce chant d'amour apparaît dans le même temps l'intimité troublante qui unit les amoureux et en même temps la juste distance qu'il faut savoir garder pour aimer en vérité. Lève-toi, va-t'en, je te cherche, il est parti. En même temps que les nombreuses images des portraits, apparaît ainsi le mystère de chacun des amoureux. Le respect de ce mystère de chacun garantit à lui seul le dévoilement délicat de l'autre. Pardon. La colombe, dans le creux du rocher, dans l'escarpement secret, fais-moi voir ton visage. Le poète appelle la femme la Shulamite, qui peut signifier la pacifique, si l'on cherche dans le mot une forme féminine de Salomon. Mais il peut aussi s'agir d'une réminiscence due à la belle Shunamite Abishag. Cette jeune fille, Abishag, fut donnée au vieux roi David afin de réchauffer son corps et son cœur. Vous avez ça dans le premier livre des rois. L'amour qui nous est révélé dans le livre du Cantique, n'est-il pas reconnaissable dans cette parole si pleine de respect et de confiance que va prononcer l'amoureux à son amoureuse? Au chapitre 2 du livre, au verset 10, « Lève-toi et va pour toi ». Exactement en hébreu, les mêmes mots que ceux que l'Éternel dira à Abraham au chapitre 12, quand il l'appellera « Va, va pour toi, quitte ton pays et va vers le pays que je te donnerai. » Ne pas mettre la main sur l'autre, ne pas posséder l'autre, voilà comment aime l'Éternel, voilà comment nous sommes appelés à aimer. L'autre est à jamais autre. Et puisque nous parlons de l'amour qui n'est pas possession, parlons de ce contraire, parlons des femmes qu'on appelle prostituées. Vous connaissez les 2 femmes qui demandent au roi Salomon son jugement dans l'affaire de l'enfant mort et de l'enfant vivant. dans le premier livre des Rois au chapitre 3. Mais connaissez-vous Gomer et Rahab? Alors commençons par Gomer. Aux yeux des prophètes, les prostituées sont l'image de l'infidélité par excellence. Opposée à l'exclusivité que demande l'amour de l'Éternel. Cependant, un des prophètes bibliques, au lieu de vociférer contre les prostituées, va avoir une idée originale. Osée va épouser une prostituée du nom de Gomer. Cela n'a pas été très facile, car lui qui hurle par sa vocation contre l'idolâtrie, voilà qu'il tombe amoureux d'une étrangère, une femme de rien, une prostituée. Comment va-t-il s'en sortir, puisqu'il est prophète de l'Éternel? Eh bien, il va inventer. Il va créer une métaphore, une image. Il va faire de Gomer sa femme, mais la femme aux nombreux amants, le symbole du peuple de l'Éternel. Ce peuple qui n'est pas si fidèle, ce peuple souvent perdu, qui retourne souvent à ses idoles, mais qui est aimé de manière indéfectible par l'Éternel lui-même. Ainsi, le prophète réussit à garder ensemble la loi divine qui demande l'exclusivité pour l'Éternel et son amour d'humain pour cette femme aux nombreux amants. Le prophète Ézéchiel, lui, 2 siècles plus tard, parlera d'abomination et de châtiment devant les prostituées, mais lui n'est pas tombé amoureux d'une femme aux nombreux amants. Et que savez-vous de Rahab? Rahab au livre de Josué. Revenons au temps de Moïse. Josué est prêt à faire entrer le peuple en terre promise. Mais il reste un obstacle de taille, la ville de Jéricho, qui appartient à l'ennemi. Alors Josué envoie 2 espions pour voir comment il faudra prendre la ville. Les 2 hommes vont directement chez une prostituée de la ville. N'a-t-elle pas toujours la porte ouverte? N'est-elle pas accueillante à tous les hommes? Eh bien, ils ont eu raison. La femme les accueille et les héberge. Mais les espions du roi sont aussi au courant que les espions d'Israël sont là. Et le roi de Jéricho les fait chercher. Et où les fait-il chercher? Eh bien, directement chez la prostituée, car le roi pense qu'elle est la seule à ouvrir sa porte aux étrangers. Sans chercher à savoir pourquoi ils sont là. Pour protéger ses hôtes, la femme va avoir recours à la ruse quand les espions du roi de Jéricho arrivent. Elle va dire qu'ils sont partis, qu'elle ne sait où. Elle va affirmer que ce n'est pas son rôle de garder les hommes qui passent auprès d'elle. Ils ne font que passer. Alors même que les espions d'Israël sont cachés sur le toit de sa maison. L'hospitalité avant tout, c'est la règle. Mais il y a, soyons honnêtes, aussi le calcul. Comme les habitants de Jéricho, cette femme connaît les exploits qui sont attachés au peuple d'Israël. Cette femme a aussi découvert leur Dieu, l'Éternel. Et elle dit sa reconnaissance et sa confiance en ce Dieu. Aussi choisit-elle le camp des espions d'Israël, afin d'être sauvée. Un accord est alors signifié entre les espions d'Israël et la femme, et bien qu'elle mette un fil rouge à sa fenêtre lors du siège de Jéricho, et elle sera épargnée, elle et sa famille, lors de l'attaque. Ainsi, Rahab, menteuse, calculatrice, prostituée, sera sauvée avec les siens par le peuple même d'Israël. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Car sauvée de l'effondrement de Jéricho sous les trompettes, selon la tradition, Rahab vivra avec sa famille au sein du peuple d'Israël. et selon l'évangéliste Matthieu, au chapitre 1. Rahab eut pour mari Salmon, fils de Nachon. De leur union va naître Boaz, arrière-grand-père du roi David. Rahab, la prostituée menteuse, rusée et étrangère, est donc une des ascendantes de Jésus avec Tamar, la belle-fille incestueuse de Judas, et Ruth, l'étrangère qui épousera Boaz, et Bethsabée, la femme d'Uri, le Hittite. Voilà les grands-mères qui sont nommées dans la généalogie de Jésus par l'évangéliste Matthieu. Quelques mots donc sur Ruth, parmi toutes les femmes étrangères. Rappelez-vous qu'en ce temps-là, les alliances avec les femmes étrangères sont interdites. Dans la Bible, pourtant, de nombreuses femmes étrangères ont un rôle exemplaire. Qui dit étrangère dit non-juive. Certaines figures, donc, dans la généalogie de Jésus, comme Rahab, comme Ruth, comme Bethsabée, sont les grands-mères de Jésus, dans la descendance de David. Sans oublier la Samaritaine de l'Évangile, qui est plus considérée d'ailleurs comme impure qu'étrangère. Pourtant, le peuple d'Israël ne doit pas se mélanger avec les peuples païens, car il se doit de rester à l'écoute du Dieu unique qui s'est révélé à lui. Or, les païens ont une multitude de dieux. Il s'agit de ne pas faire revenir l'idolâtrie dans le peuple d'Israël à cause de femmes étrangères. Cependant, Moïse épousa une étrangère et le roi Salomon en eut de nombreuses parmi ces nombreuses femmes. Et ces nombreuses femmes étrangères, il est juste de reconnaître qu'elles ont souvent été les auxiliaires de l'Éternel pour secourir et venir en aide au peuple hébreu. Ainsi donc, il était une fois, au temps des juges, une grande famine qui sévissait dans le pays. Un homme, Élimélec, partit avec sa femme Naomi et ses deux fils pour le pays de Moab afin de manger. Après la mort d'Élimélec, les deux fils se marièrent avec des Moabites, Orpa et Ruth. 10 ans plus tard, les fils moururent à leur tour. Naomi décida alors de rentrer au pays, en terre d'Israël, en ordonnant à ses belles-filles de rentrer chez leur mère. Mais elle dut insister, car elle ne voulait pas. En insistant encore, Orpa finit par partir. Mais Ruth resta en déclarant à sa belle-mère Naomi, « Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » De retour au pays à l'époque des moissons, Naomi, si pauvre, laissa Ruth glaner dans le champ d'un riche parent du nom de Boaz. Dans un premier temps, Boaz fut d'une grande générosité avec Ruth, dont il reconnut la fidélité envers sa belle-mère, si vieille et pauvre. Puis Boaz, qui avait droit de rachat, utilisa ce droit pour sortir Naomi de la pauvreté et prit pour femme Ruth, afin de garantir une descendance à Élimélec, le mari de Naomi, et de relever son nom. Naomi est devenue la gardienne d'Obed, l'enfant né de l'union de Boaz et Ruth. Et Obed deviendra le grand-père du roi David. L'histoire de Ruth a quelque chose à voir avec celle de Tamar, belle-fille de Judas. De chaque côté, vous l'avez compris, tout commence par la mort des frères. Puis la veuve étrangère devient dépendante d'un des beaux-parents. Tamar devient dépendante de Judas et Ruth dépendante de Naomi. Et toutes les deux vont séduire un parent de leur mari défunt. Tamar, en se voilant, se fait passer pour une prostituée et Ruth n'hésite pas à se coucher dans le lit de Boaz endormi, à qui, une fois éveillée, elle proposera de l'épouser. Femme audacieuse, dont la démarche est reconnue juste par l'auteur biblique dans les deux cas, car elles veulent honorer la coutume locale qui veut qu'un homme de la famille du mari défunt s'unisse à sa veuve pour susciter une descendance. Il est vrai que la démarche de Ruth est un peu plus délicate que celle des filles de Lot ou celle de Tamar. Mais nous n'avons pas à juger. Osons nous aventurer dans le Deuxième Testament pour parler d'une étrangère, elle aussi pleine d'audace. Nous trouvons son histoire dans Matthieu 15. Jésus est en terre païenne, dans une maison, lorsqu'une femme survient, préoccupée par la maladie de sa fille. C'est une première pour Jésus d'être sollicité par une païenne, une impure, et qui lui demande de chasser le démon qui habite sa fille. Jésus répond à la femme étrangère en affirmant qu'il a autre chose à faire d'abord. Il est là pour les enfants d'Israël. Et il n'est pas bon, dit Jésus, de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. C'est alors que l'audace se révèle, l'audace de la femme se révèle. Elle invite Jésus sous la table. Les petits chiens sous la table, lui dit-elle, ne prennent rien sur la table. Ils ne prennent rien aux enfants assis à table. Ils ne prennent que ce qui tombe de la main des enfants. À Jésus qui affirme cela d'abord, la femme réplique : il y en a pour tous et en même temps. Jésus, interloqué, comprend néanmoins la parole de la femme et l'accueille en lui. La demande de guérison est elle aussi accueillie, et la petite fille est aussitôt délivrée de ce démon impur. Jésus n'a rien fait, pas de geste, pas de parole. Il ne s'est pas déplacé. C'est la parole de la femme qui a œuvré en lui et à travers lui. Deux choses ont été à l'œuvre dans ce récit. L'audace d'une mère pour sauver sa fille et l'écoute de Jésus qui accueille une parole qui le remet en question, qui remet en question sa manière de voir les choses et son ministère. Une audace totale à laquelle a répondu une écoute totale. Mais nous ne saurions parler des femmes dans la Bible sans aborder la question de la violence. Alors commençons par les violences que les femmes subissent. Être vierge n'est pas une sinécure, écrit Jacqueline Kellen dans un des livres que j'ai déposés. Poursuivant ainsi, c'est un état ambigu qui mène à tous les périls. Une solution d'attente, par exemple, avant d'être violée par l'ennemi ou par son frère, ou moindre mal, avant d'être livrée en mariage à un homme qu'on n'a pas choisi. Mais si la vierge n'a pas attendu, elle sera lapidée jusqu'à la mort. Lors de la guerre contre les Madianites, Moïse, le grand Moïse, va s'en prendre aux chefs de son armée qui ont osé laisser la vie sauve aux femmes du camp ennemi. Il fallait les violer et les tuer. Le temps n'a pas changé. Dina est une toute petite fille. Lorsque ses parents, Jacob et Léa, habitent une ville gouvernée par Sichem. Le prince Sichem la voit dans la rue se promenant et aussitôt la ravit pour coucher de force avec elle. Et la chose se complique car le prince Sichem tombe amoureux de Dina. Mais les frères de Dina ne vont pas accepter la demande en mariage, ni l'argent que le prince propose. Ils veulent venger leur sœur et réclament que le prince étranger se fasse dans un premier temps circoncire. Le prince étranger va le faire et tous ses hommes avec lui. Alors qu'ils se reposent, tous ces hommes, de cette opération délicate et douloureuse, les fils de Jacob les massacrent tous. Dina fut ramenée à la maison, malheureuse, dit la Bible en Genèse 34, car elle avait perdu non seulement sa virginité, mais l'espérance d'un bon mariage. Dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 13 et 14, Amnon, fils du roi David, devint amoureux de sa demi-sœur, si belle, si fraîche, Tamar, une autre Tamar. Mais cet amour est interdit par la loi. Alors, Amnon décide d'agir par ruse. Il se couche, soi-disant malade, et demande que Tamar le visite et le fasse manger. Le roi David n'y voit pas malice et autorise Tamar à se rendre auprès de son demi-frère. Celui-ci refuse toute nourriture, pourtant préparée par la jeune fille, et il la force à coucher avec lui. Viol doublé d'inceste, cela fait beaucoup. Et le coupable, comme souvent, fut pris d'une haine violente envers sa victime et la chassa de sa maison. Dans la rue, Tamar rencontre son frère Absalom, qui comprend aussitôt la situation en voyant le regard de sa sœur. Mais il lui ordonne le silence. Le roi David, mis au courant, se tait lui aussi, car il veut préserver son fils préféré, Amnon. Tamar ignore ce qu'Absalom trame en silence. Au bout de 2 ans, Absalom invite son demi-frère Amnon à un festin royal. Et quand celui-ci fut ivre, il ordonna à ses serviteurs de le tuer. Les jeunes filles ne devraient-elles pas être à l'abri dans leur famille? Rappelons-nous Lot, qui est prêt à donner ses filles à la violence sexuelle des hommes de Sodome, pourvu que les deux étrangers soient épargnés par cette même violence. L'hospitalité d'abord, dit-il. Parlons encore d'une autre fille, celle de Jephthé, dans le livre des Juges, au chapitre 11. Fils d'une femme prostituée et d'un notable du pays de Galaad, Jephthé est chassé de sa famille par ses demi-frères qui naîtront après, afin de ne pas partager avec lui l'héritage de son père. Il devint alors un chef de bande réputé. Face à l'invasion imminente du pays de Galaad par les Moabites et les Ammonites, le peuple demande à Jephthé de devenir son chef de guerre. Celui-ci négocie avec le peuple sa victoire contre la reconnaissance qu'il sera alors le chef du pays de Galaad. Comme il n'est pas tout à fait sûr de gagner, il fait un vœu devant l'Éternel. Voici ses mots. « Si tu livres entre mes mains les Ammonites, quiconque sortira le premier de ma maison pour venir à ma rencontre, celui-là appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en sacrifice. » Ainsi, Jephthé n'a pas peur d'annoncer qu'il disposera de la vie d'un de ses sujets avec l'aide de l'Éternel. Lorsqu'il revient chez lui, victorieux, qui sort en premier par les portes de sa maison pour le saluer en dansant? Sa fille unique. Curieusement, cette fille unique sait ce qu'elle fait, puisque le vœu de Jephthé avait été rendu public. Jephthé est alors partagé entre son pouvoir absolu sur Galaad et sa future descendance, puisque sa fille est unique. Il lui dit son chagrin, mais elle lui répond, « Fais ce que tu as dit. » Que cherche-t-elle donc, cette jeune fille? Veut-elle protéger toute sa maisonnée? Veut-elle défier l'ambition de son père? Croit-elle jusqu'au bout que l'amour de son père sera plus fort que sa parole? Elle lui demande 2 mois de retrait dans la montagne avec ses amis pour faire le deuil de sa virginité et de sa vie. 2 mois qui lui sont accordés. Mais à son retour, son père Jephté n'a pas changé d'avis et la tue. Cette histoire est absolument étrange, car depuis l'épreuve d'Abraham en Genèse 22, le sacrifice humain en offrande de remerciement n'a plus cours parmi le peuple d'Israël. La fille est victime du vœu de son père, vœu qui a plus de poids que la vie de sa fille. Le fait que cette fille ne soit pas nommée, accentue son caractère de victime. Pourtant, sa mémoire se transmet d'année en année jusqu'à nous. Les rabbins en profiteront pour rappeler que les vœux sont déconseillés et que Jephté aurait pu épargner sa fille en allant simplement chez le grand prêtre faire une offrande en argent. Sans doute, son immense orgueil l'a-t-il empêché de se déplacer. Encore une histoire, l'histoire de Suzanne, dans le livre de Daniel au chapitre 13. Alors je précise que ce chapitre de Daniel n'est pas dans les Bibles protestantes, il n'est que dans les Bibles catholiques. Je l'ai cherché dans ma Bible et ma Bible s'arrête au chapitre 12. Voilà. Comme ça, je rappelle que les Bibles protestantes et les Bibles catholiques ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes livres. Donc, voici une juive vertueuse en exil à Babylone. Femme de Joachim, elle aime se promener dans son jardin magnifique. 2 vieillards, qui ont reçu la charge de juger les autres, se rendent souvent en la maison de Joachim et sont pris de désir pour sa belle femme. Les 2 vieux se mettent à épier la femme et se décident à la partager. Un jour de grande chaleur, Suzanne veut se baigner. C'est alors que le vieillard, caché derrière les arbres, lui propose un marché. « Tu couches avec nous ou bien nous dirons que tu as un amant ?» Viol, chantage et calomnie. Mais Suzanne n'hésite pas un instant. Entre l'intimité avec ces vieillards, que j'ajouterai libidineux, et le supposé jeune amant, elle choisit. Elle se met à crier très fort. Mais les vieillards, de leur côté, racontent ce qu'ils veulent aux gens qui accourent et aux maris. Celui-ci, Joachim, va accepter que sa femme comparaisse devant le tribunal pour adultère. Et qui siège au tribunal ? Les 2 vieux. Les 2 vieux en rajoutent dans l'accusation lorsque soudain, un jeune garçon dans l'assemblée demande « Où est passé l'amant ?» Les vieillards affirment qu'il a pris la fuite. Ils n'ont pas eu le temps de le voir et de le rattraper. Suzanne fut condamnée à mort suite au témoignage de ses juges iniques. Celle-ci va clamer son innocence, non pas devant le tribunal, non pas devant son mari, mais devant l'Éternel seul. Et celui-ci va répondre par la voix du jeune garçon qui a déjà été entendu. Le garçon va se mettre à crier que les vieux ont porté un faux témoignage. Alors, appelé par le tribunal devant l'assemblée, il demande que les vieillards soient entendus séparément par l'assemblée et il mènera l'enquête lui-même. Il va poser une question à chacun des vieillards. Sous quel arbre s'est passé l'innommable, l'adultère ? Le premier vieillard répond « sous un acacia ». L'autre répond « sous un tremble ». L'assemblée se lève en criant contre les faux témoins qui sont exécutés, séance tenante. Ouais, la Bible, c'est bien, hein ? Une autre situation, celle de la femme adultère dans l'évangile de Jean au chapitre 8. D'emblée, la situation est compliquée. Des responsables religieux veulent piéger Jésus dans son application de la loi. Est-il fidèle à la loi de Moïse ou non ? En lecteur attentif, nous pouvons nous demander si la comparution de la femme n'est pas simplement même un prétexte pour se confronter avec Jésus. Nous pouvons aussi nous demander où est l'homme, puisque Jean précise que la femme a bien été prise en flagrant délit. La femme, quant à elle, n'est pas nommée. Elle est placée par les religieux au milieu du peuple, que Jésus enseignait l'instant d'avant. Certainement, cette femme, prise en flagrant délit d'adultère, est peu vêtue. Nul ne va lui donner la parole. Elle ne la prendra pas non plus. Imaginez la violence de la situation, des paroles d'accusation, des regards et des doigts vengeurs devant cette femme, nue face à tous ces hommes. Mais l'enjeu, en fait, se situe entre Jésus et ses religieux accusateurs. Au début, Jésus reste silencieux, accroupi vers le sol, écrivant dans le sable des mots que l'on ne connaît pas. En face, debout, les religieux, sûrs de la loi qu'ils connaissent par cœur, accusent sans cesse cette femme. Soudain, Jésus se relève et dit à ses religieux, que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Renvoyés à leur condition de pécheurs, les hommes reculent et se taisent. Jésus, vous l'avez compris, ne conteste pas la loi, il montre seulement que les accusateurs sont aussi des coupables devant l'Éternel. C'est alors que le cercle des accusateurs disparaît et que la femme reste seule face à Jésus. Et celui-ci lui parle. « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamnée ?»« Personne, Seigneur, » dit-elle. Alors Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. » Le processus de mort a pris fin, transgression, accusation, condamnation et châtiment, et la vie a repris ses droits grâce à la parole de Jésus. Miséricorde et confiance remplacent la condamnation et le châtiment. Bien sûr, la transgression et la condamnation ne sont pas niées. Jésus reconnaît qu'il y a faute, ne pêche plus. Mais il renvoie la femme à la vie et non à la mort par le châtiment. « Va, lui dit-il, c'est-à-dire je te fais confiance, je compte sur toi, je t'invite à changer de vie. » Nous avons abordé quelques violences faites aux femmes, il ne serait pas juste d'ignorer les violences des femmes. Nous avons vu Déborah, prophète et chef de guerre, Yaël, en meurtrière rusée, mais regardons de près Jézabel, au premier livre des rois, et sa fille Athalie, au deuxième livre des rois. Je vais dépasser un peu mon temps. Continue. Jézabel, fille du roi des Sidoniens, est l'une des femmes du roi Akab, roi d'Israël, 869 avant Jésus. Le roi d'Israël va s'adonner au culte de sa femme étrangère, au culte de Baal. Jézabel, très active dans ce culte, va exterminer tous les prophètes de l'Éternel et dans le même temps va entretenir à sa table 400 prophètes d'Achéra. Vous la retrouverez face au prophète Élie. Lorsque celui-ci fait massacrer les 400 prophètes de Baal, Jézabel va le condamner à mort, mais Élie sera sauvé par un ange de l'Éternel dans le désert. Mais Jézabel, la maléfique, ne s'arrête pas là. Lorsque son mari royal veut la vigne de Naboth, celui-ci refuse parce que c'est un héritage familial. Alors, devant la faim, la grève de la faim que commence son mari, Jézabel organise un stratagème pour faire lapider Naboth lors d'un faux procès. Mais l'Éternel veille et condamne le roi Akab et Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel. Jézabel inspira le dégoût et la peur. Tout est bon pour assouvir son pouvoir. Elle utilisera les pouvoirs royaux, mais ne recevra jamais le titre de reine. Souvent diabolisée face au prophète Élie, qui est sa totale antithèse. Quant à Athalie, sa fille, après la mort de Jézabel, eh bien, elle va reprendre le combat de sa mère contre le Dieu d'Israël, notamment par des combats entre les puissants de la terre et les rois oints par les prophètes d'Israël. Elle est la seule femme de la Bible qui a régné sur Juda en épousant Joram, le roi. Elle aussi, Athalie, va pratiquer le culte de Baal. On lui attribue les mauvaises conduites de son mari et de son fils Akazia. Celui-ci sera tué par Jésus, roi d'Israël. Et c'est alors qu'Athalie, par vengeance, fera exterminer toute la descendance de David, toute, sauf un petit prince Joas qui échappa au massacre. Il grandira dans le temple caché pendant 6 ans. Le grand jour arriva où Joas fut consacré roi contre Athalie, qui hurlait de rage contre cet Éternel qui avait su protéger la descendance de David contre elle, la reine. Les prêtres du temple avaient prévu la mise à mort de la reine, qui fut entraînée au palais royal pour recevoir plusieurs coups qui la tueront. Comme Jézabel, Athalie représente le culte idolâtre, et sa mort va servir d'exemple pour les défenseurs du culte d'Israël. Mais tournons-nous aussi un instant vers Hérodiade, dans l'évangile de Marc au chapitre 6. Hérodiade est la femme du frère d'Hérode, Philippe. Et lors d'une rencontre à Rome, Hérodiade et Hérode tombent amoureux. L'une quitte son mari, l'autre répudie son épouse qui est princesse d'Arabie. Et Hérodiade rentre dans le palais triomphante comme reine. Seul un homme va oser protester contre cette immoralité. Jean le Baptiste. Le roi le fera enfermer. Et par peur du peuple qui aime tant Jean-Baptiste, il le laissera en vie. Il avait peur du prophète car il avait reconnu. Non, il avait peur de Jean car il avait reconnu en lui un prophète. Hérodiade, quant à elle, se mit à détester Jean. Elle cherchait comment le faire tuer quand une occasion se présenta. Lors d'un banquet royal, Salomé, sa fille, danse à la demande d'Hérode, son beau-père. Voulant la remercier, Hérode lui promet ce qu'elle veut. Sous l'influence de sa mère, Salomé demandera la tête de Jean, ce qui fut fait. Hérodiade n'est pas la première ni la dernière femme à faire le mal. Souvenons-nous beaucoup plus tard d'Isabelle la catholique, reine d'Espagne, qui fut à l'origine de l'inquisition contre les juifs, de Madame de Maintenon, qui fut à l'origine de la révocation de l'édit de Nantes par le roi Louis XIV contre les protestants. Il y eut des milliers de victimes dans les deux cas. Je voudrais terminer par quelques femmes du Second Testament. Il y a les veuves qui sont souvent mentionnées dans le livre des Actes à propos des distributions de nourriture dont elles bénéficient. Elles peuvent s'inscrire dans le groupe des veuves si elles ont plus de 60 ans et si elles consacrent leur vie à la prière. Les jeunes veuves, quant à elles, sont engagées à s'occuper des enfants ou à se remarier pour ne pas être à la charge de la communauté. Si les veuves forment un ordre, elles ne font pas partie du clergé. Car les femmes ne sont pas établies pour enseigner, mais pour prier. Les hommes pourraient se moquer de ce que dit une femme. Pourtant, la foi s'est répandue largement grâce aux paroles des femmes que les hommes appellent bavardage. Il y a les aînés nommés dans l'épître de Tite, qui enseignent aux jeunes femmes à aimer leur mari, leurs enfants, à être chastes, à être femmes d'intérieur et soumises à leur mari. Je cite. Il y a les femmes diacres dans le livre de Timothée, dont les fonctions ne sont pas mentionnées. Mais dans tous les cas, le terme peut être traduit par ministre-serviteur, comme est nommé Phoebé par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 16. Il est vraisemblable que les fonctions de diacre s'exerçaient dans la charité, dans l'enseignement et dans la surveillance de la communauté. La hiérarchie dans l'Église est née avec Ignace d'Antioche qui est mort en 107. Cette hiérarchie opéra une séparation définitive entre le clergé et le peuple et sera particulièrement défavorable aux femmes en mettant fin à toutes leurs fonctions dans l'Église. Plus tard, les femmes accéderont au diaconat quand seront créées les diaconesses. Celles-ci apparaissent en Syrie pour donner des aides à l'évêque, qui sont les diaconesses, avaient la réputation d'être plus soumises que les veuves. Elles ont pour mission d'aider l'évêque pour le baptême des femmes, pour instruire les femmes dans les gynécées où les hommes ne peuvent pénétrer. Elles reçoivent une ordination, font partie du clergé, mais ne peuvent accomplir aucun sacrement. L'histoire de l'Église montre que les femmes n'ont pas accepté sans résistance leur élimination. Les textes apocryphes du IIe siècle sont de bons témoins de cette résistance. Les textes apocryphes, c'est l'évangile de Thomas, l'évangile de Jacques, etc. Et revenons à Marie de Magdala, l'amie la plus proche de Jésus. Son identité est si peu établie que certains font d'elle la pécheresse anonyme de Luxette. Parce que les démons sont sortis d'elle, et qu'autant de démons, il y en avait 7, ne peuvent signifier que la luxure. Elle serait donc une prostituée. Les accusations humaines ne reposent pas toujours sur du solide, et révèlent plutôt une tendance souvent ecclésiastique à dévaloriser ensemble et la femme et la sexualité. D'autres vont la confondre avec la femme au parfum. Mais les évangiles citent 3 femmes et 2 onctions de parfum. Luc parle d'une femme, pécheur, qui endoie Jésus, mais celui-ci reconnaît son grand amour. Jean va citer Marie de Béthanie, et le geste a lieu sur les pieds de Jésus. Matthieu et Marc ne nomment pas la femme, mais situent l'action à Béthanie. Le geste est alors sur la tête de Jésus. Jésus reconnaît au geste d'onction une portée prophétique en révélant que cette femme a agi en vue de sa sépulture et qu'on en parlera très longtemps. Constatons que chez Jean, le geste est sur les pieds de Jésus juste quelques jours avant le geste que Jésus lui-même accomplira sur les pieds de ses disciples, le lavement des pieds. Marie de Magdala n'a pas fait d'onction. On ne peut la confondre avec Marie de Béthanie ou la femme pécheur de Luc. Elle fait partie du groupe de femmes qui ont suivi Jésus. Elle est à la croix avec d'autres. L'intimité de Marie de Magdala est à nouveau signifiée dans le jardin de la rencontre entre Jésus relevé de la mort et la femme. Et elle est même envoyée la première pour annoncer l'événement aux hommes. Marie de Béthanie, elle, sera la femme à l'onction dont Jésus dit qu'il faut faire mémoire. Quant à la femme pécheur de Luc, elle exprime surtout sa reconnaissance pour le pardon reçu en bravant le mépris des hommes attablés avec Jésus. Et pour terminer, enfin, je voudrais le faire avec 2 femmes, Marthe et Marie. La scène que j'ai retenue se passe dans un village. Marthe et Marie sont sœurs. L'une accueille Jésus et travaille au repas. Marie, au pied de Jésus, écoute sa parole. Les règles de l'hospitalité sont alors prioritaires. L'écoute attentive est une caractéristique du disciple. Marthe s'affaire, écrit le grec, avec une nuance péjorative qui va au-delà de la description. Marie est assise et ne fait rien de particulier. Elle écoute seulement. Marthe veut donner un repas à Jésus. Marthe veut recevoir une parole de Jésus. L'une s'agite, l'autre est calme. Si l'agitation de Marthe vous énerve, elle, Marthe, est énervée par le calme de sa sœur. Et elle le dit, et elle prend Jésus à témoin. Ce faisant, elle valorise son travail et dévalue l'écoute de sa sœur, puisqu'elle demande à Jésus d'envoyer Marie à la cuisine avec elle. La réponse de Jésus est formidable. Elle est tendre, mais elle est tendre. Marthe, Marthe, dit Jésus, comme s'il parlait à un enfant agité pour le calmer. Mais Jésus va renverser la hiérarchie de Marthe et va lui montrer sa sœur comme ayant la bonne part. La première des nécessités, dit Jésus, est de se mettre à l'écoute de la parole afin de servir après. Ce texte a beaucoup été utilisé, notamment dans la tradition monastique, afin de valoriser la contemplation contre les œuvres. Mais les pères de l'Église ont montré la complémentarité des attitudes et dit qu'il y avait en chacune une part de contemplation, une part d'activité. Thérèse d'Avila écrira « Au point où elles se joignent, Marthe et Marie sont un seul et même être. » N'est-il pas vrai que l'amour de l'Éternel se reçoit avant de se donner? J'aurais aussi voulu vous brosser les portraits de la femme de Putiphar, menteuse contre Joseph, des femmes guéries par Jésus, de Judith, femme de guerre, de la magicienne d'Endor, de Asenath, de Bethsabée, d'Abigaël, de Marie, de Anne, la mère de Samuel, de Ève, la vivante, de Esther, de la reine de Saba, de Dalila, ennemie de Samson, et de tant d'autres encore, mais ce sera pour une autre fois.
Merci, merci infiniment, Pasteur Isabelle. C'est un fantastique travail que vous avez fait. Parce que là, vous nous avez brossé une grande partie, et surtout même les inconnus, ça c'était intéressant aussi, ou les peu connus des femmes, parce que c'est sûr que la reine Esther et d'autres, ou Dalila, on connaît un petit peu, mais je pense que ce travail profond nous a permis de traverser la Bible jusqu'à effectivement presque plus tard les époques non bibliques mais de ces affreuses personnages dont vous avez nommé les faits. Alors tellement vous nous avez raconté de profondeur, est-ce qu'il y aura des questions quand même? Parce que je crois que même si il y a un éventail très vaste de personnalités dans ce que vous nous avez dit, il y a, moi je trouve, surtout la vie. Vous l'avez dit au départ, mais c'est vrai tout le long, c'est toujours une bataille pour la vie. Et lorsqu'on sait que ce sont les femmes qui donnent la vie, grâce à la présence des hommes, bien sûr, on comprend cette force. Et finalement, il y a quand même, je ne me souviens plus bien le nombre que vous avez dit au départ, du nombre de femmes nommées.
1000,
c'est fantastique. Et finalement, on devrait savoir combien d'hommes sont nommés dans la Bible. C'est intéressant de faire une petite comparaison. Mais pas chercher. Bon, peut-être à vous de chercher et de penser le nombre d'hommes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on pense souvent que les hommes sont mis plus en valeur dans leur histoire, vous l'avez dit, mais ô combien les femmes sont là, présentes, puis moi j'ai le sentiment que c'est toujours comme cela. Et pourtant, il faut se battre sans cesse pour les droits des femmes, même encore aujourd'hui. Bien. Alors, est-ce que j'attendais un tout petit peu et je voulais en faire la réflexion, mais vous l'avez rapidement nommé, je crois. Vous avez peu parlé de Marie, mais en tant que maman, mère de Jésus. Alors peut-être, n'est-ce pas, c'était pas pour vous une force de le dire.
Elle est trop connue.
Elle est trop connue, voilà, c'est ce que j'ai pensé pour le monde chrétien. Pour le monde juif, elle est un peu moins connue. Elle n'était pas Marie, je crois qu'elle était Myriam. Voilà, mais bon, bon, voilà. Questions? Les questions sont les bienvenues. Et le fil est raccourci, donc il faudra venir par ici pour poser vos questions ou dire...
Encore des petites remarques. Et donc, je voulais faire quatre petites remarques par rapport à ce que vous avez brièvement raconté. Oui, pardon. Oui, donc il y avait quatre remarques que je voulais faire en relisant un petit peu tout ce que vous avez fort bien dit. La première concernant les prostituées. Il y a un terme en hébreu qui se dit, enfin on peut dire de deux façons le mot prostituée. Il y a le zona et puis kedesha. Et kedesha, c'est la même racine que gadosh, c'est-à-dire la sainteté. Et c'est amusant que ce terme a été choisi pour désigner les prostituées, donc ce qui veut dire quand même que la prostituée, malgré tout, a un certain aura dans le judaïsme.
Jésus a dit qu'elle serait avant nous dans le royaume des cieux. Voilà. Exactement. Tout à fait.
La deuxième remarque, c'était à propos de Myriam. Si on découpe le mot Myriam, il y a le mot mère et yam. Mère, c'est la mère en français, et yam, c'est la mère en hébreu. Et c'est marrant que finalement, elle a été finalement le symbole de l'eau et de la mer, finalement, la mer rouge. Ensuite, la troisième chose, c'était par rapport à Léa et Rachel. Il est cité que, enfin, il y a une histoire où il raconte qu'à un moment donné, Rachel va demander les mandragores que le fils de Léa a accueillis pour elle. Et Léa s'est un petit peu énervée en disant que, bon, déjà, passe la nuit avec Jacob et en plus tu réclames des fleurs que mon fils a cueillies. Et dans un geste de générosité, elle lui a dit, ben, puisque tu m'offres ces fleurs, je te laisse mon mari pour cette nuit. Et à la suite de cette nuit, Léa, qui avait arrêté d'être enceinte puisqu'elle avait eu, elle a eu au début 4 enfants, mais après elle a dû donner sa servante pour donner pour avoir des enfants. Et à la suite donc de cette nuit qu'elle a passée, elle a été de nouveau enceinte. Et donc elle a eu cette récompense. Et pour son geste de générosité, Rachel a également été enceinte. Donc finalement, par ce geste d'offrir des fleurs à sa rivale, finalement, ils ont été enceintes toutes les deux. Et enfin, donc, je voulais juste citer un film que j'ai vu à propos de la femme idéale, qui s'appelle La vie domestique, qui passe actuellement au cinéma. Je trouve que c'est un très beau film qui raconte, qui met en valeur les qualités cachées de la femme dans notre vie de tous les jours.
Pas l'intérêt de venir jusqu'à là, mais bon. C'est justement une question que je voulais vous poser à vous. Qu'est-ce que vous pensez des femmes de la Bible, en fin de compte? Qu'est-ce que vous pensez, en fin de...
Je tourne toi vers nous.
Oui. Bon, bah, c'est un malade que je m'adresse, alors... Oui, alors voilà, je voulais... Disons que je vous ai écouté tous ces récits de femmes différentes avec leurs histoires qui sont très proches de ce que nous vivons actuellement encore. Hein. qui sont tout simplement le récit des femmes de la vie d'avant et de la vie d'aujourd'hui. Je voulais vous demander, à vous, qu'est-ce que vous pensez de comment y raconter l'histoire des femmes dans la Bible ? Je n'ai pas senti là, pour moi il y a un questionnement, voilà, du sens de comment sont racontées les femmes dans la Bible. Je ne sais pas si je me fais comprendre.
Je ne comprends pas, je comprends pas très bien, parce que vous me demandez ce que j'en pense et vous me demandez comment c'est raconté.
Ce que vous ressentez.
Oui, c'est ce que vous ressentez, vous.
Ah, mais je n'étais pas là pour dire ce que je ressens, moi.
Si. C'est ça qui m'intéresse.
Ah, c'est ça qui vous intéresse. Moi, je suis très féministe, alors je suis très contente qu'on parle
de ça. Si, c'est bien, parce que comme la façon dont c'est raconté, ça, vous l'avez... Isabelle l'a bien dit, mais ce que vous, Isabelle, vous ressentez en racontant ou en lisant tout cela.
Je crois que c'est ça.
Alors la première chose, je l'avais dit d'entrée de jeu, c'est que j'ai bien aimé faire ce travail que je n'imaginais pas aussi fructueux, parce que j'ai découvert plein de choses. Alors, comment dire, je suis effectivement étonnée qu'il y ait autant de femmes citées dans la Bible, mais je ne suis pas étonnée par ces femmes. Ces femmes, elles nous ressemblent. Enfin, je veux dire, dans la vie d'aujourd'hui, nous voyons des femmes qui ont autant de génie pour la vie, autant de création, autant de ruse parfois, quelquefois aussi autant de chanceté, je dois dire. Voilà, donc je pense que ces femmes... voilà, nous ressemblent, nous leur ressemblons, ça dépend des situations, des contextes dans lesquels nous sommes. Après, c'est vrai que notre statut a un petit peu plus évolué, on est peut-être un peu moins soumise à nos maris, quoique. On travaille, alors ça fait la différence. Et voilà, mais je crois qu'au fond de nous, nos sentiments par rapport à nos maris, à nos ennemis, à nos enfants, à nos belles-mères ou autres, je suis pas sûre qu'on ait beaucoup évolué là-dessus. Voilà, ça, il y a des choses qui m'ont rejointe et des choses que je n'ai pas comprises, mais que comme je ne comprends pas toutes les femmes d'aujourd'hui. Voilà, mais voilà, j'ai été agréablement surprise qu'il y ait toutes ces vies très diverses et variées, et en même temps, en tant que femme, j'y retrouve la variété du monde féminin. Voilà, ça me, je suis pas surprise par les réactions des femmes. Voilà, je suis surprise qu'il y en ait autant dans la Bible. J'avais vraiment l'idée que ce livre était un livre de macho. Voilà. Je ne suis pas toujours très tendre avec les...
C'est une grande découverte pour vous.
Ah, mais c'est ce que j'ai dit, bien sûr. C'est une grande découverte et j'en suis ravie. Oui, oui.
Pour nous aussi.
Ah, mais tant mieux.
Le sentiment que la Bible est écrite pour nous. Parce qu'on retrouve toutes les situations, et si on lit la Bible d'une certaine façon, Bible au sens large du terme, aussi bien le Premier Testament que le Second, si on veut appeler cela ainsi, mais on retrouve des histoires humaines tout le temps. Moi, ce que je trouve remarquable, c'est ceux qui ont écrit, avec l'inspiration bien sûr, mais de tout ce cheminement et toute l'histoire qui se déroule, qui est purement humaine. Donc on retrouve les histoires de femmes, d'enfants et d'hommes surtout aussi, bien sûr.
Tout d'abord, je voudrais... Est-ce que vous m'entendez ? Tout d'abord, j'ai trouvé formidable que vous nous resituez les Bibles dans le temps et dans l'ordre. Ensuite, ai-je mal entendu ? Peut-être que oui ou non. Avez-vous parlé d'Esther ?
Non.
Exprès ?
C'est un choix.
Vous voulez m'expliquer ?
Pourquoi ?
Alors, quand madame
Eliane
m'a appelée, elle m'a dit, vous avez une heure. Et j'ai déjà fait 1h20. Voilà, donc je expliquais tout à l'heure à ma collègue Charlotte, qui est pasteur à Annecy,
que ma plus grande difficulté n'était pas de trouver des livres, n'était pas de trouver les récits de femmes, c'était de les ranger, si je puis dire, pour que ça paraisse un petit peu ordonné, quoi, parce que finalement, j'ai quand même enfilé les histoires les unes derrière les autres, hein, je veux dire, vous avez été courageux et patient. Voilà, donc il fallait que... J'ai mis un certain temps avant de trouver un fil conducteur, c'est bon, enfin, de classer les violences, etc., de classer les audacieuses, les prophètes, etc. et tout. C'est ça qui m'a demandé le plus de difficultés, parce que certaines femmes pouvaient rentrer dans plusieurs cases, etc. et tout. Et puis j'ai vraiment fait le choix d'essayer de vous faire découvrir des femmes qu'on ne connaît pas, ou qu'on connaît très peu. Voilà, des anonymes, etc. et tout. Donc c'est un choix, mais j'ai dit, ben voilà, on peut faire une seconde fois hein, avec les autres. Voilà, parce qu'il y a encore des anonymes, des inconnus, et voilà, je vais vous montrer quelque chose qui va vous expliquer ce qui m'a, voilà. Alors moi, je ne sais pas travailler sans ordinateur, comme beaucoup de gens maintenant. Alors j'ai fait un tableau Excel sur mon Mac. Je suis obligée de me lever. Voilà. J'ai tout rangé par ordre alphabétique, en les rangeant. Voilà, regardez. Quand je disais que c'était un travail, voilà. Donc, voilà, toutes les formes que j'ai découvertes dans la Bible au fur et à mesure de mes lectures. Je crois que j'ai fait une page. Vous voyez, donc je peux revenir. Voilà, hein, une page. Donc, l'idée, c'était surtout, c'était pas de tout dire. L'idée, c'est que maintenant, vous prenez votre Bible en rentrant à la maison, et vous lisez, vous bouquinez, vous feuilletez. Vous avez vu, c'est soit un roman policier, soit... Enfin, c'est un vrai feuilleton, c'est très intéressant. Ne lisez pas le Lévitique, etc. Ça n'a plus d'intérêt pour nous aujourd'hui. Mais je veux dire, mais voilà, lisez tous ces livres, les livres des rois, etc. et tout, c'est absolument passionnant. Et vous redécouvrirez tout ça. Voilà. Vous voyez la difficulté du... Comment ?
Si vous pouvez
reprendre
Racine.
Oui, on peut aussi, effectivement. Après, c'est encore une autre conférence de voir justement comment les femmes de la Bible ont été reprises dans la littérature. Ça, c'est absolument passionnant. Victor Hugo qui a fait son poème de Beaux endormis, je veux dire, voilà, si vous ne voulez pas lire la Bible parce que ça vous casse les pieds, ben, lisez dans la littérature d'aujourd'hui Victor Hugo ou les poètes ou Racine, etc. et tout, effectivement, vous retrouverez beaucoup de femmes de la Bible aussi. Ce sont des personnages. Voilà.
On les a au printemps de SL.
Oui, aussi. Oui.
Alors, je crois que j'ai un ami que vous connaissez, non, tu veux pas ? Qui veut réagir.
Aussi.
Bon. Quand vous avez parlé du Lévitique et c'était dépassé, cet ami est talmudiste.
Ah, pardon.
Et non, pas dépassé, mais c'était... Voilà.
Enfin, pour les chrétiens, c'est dépassé.
Voilà.
Pardon.
Voilà. Donc, effectivement, il y a des choses dedans, non ? Ah. Bien. Bien. Donc, c'est...
Vous avez...
Moi, je voudrais parler d'une expression où on parle de faible femme. Est-ce que c'est pas pour ça aussi qu'elles sont acteurs du salut de Dieu ? Parce que Dieu utilise toujours les faibles, les plus faibles, pour son projet de salut. Il utilise aussi des enfants comme David. Et je me demande si c'est pas un peu le même esprit qui fait que c'est celle qu'on n'attend pas qui amène le salut. Voilà.
Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que Dieu considère les femmes comme des faibles femmes, mais il se sert des préjugés des hommes, évidemment, pour faire avancer son plan, son dessein. Ça, voilà, c'est certain. Alors, je dis que quand dans la Bible, on lit que l'Éternel cache cela aux savants et aux intelligents pour le dire par les enfants et les petits, voilà, ça revient à ça. Mais après, nous avons là, dans la phrase que vous avez dit, vous avez le contraste ou le choc de la pensée de l'Éternel et de la pensée des hommes. Hein, je dirais que l'Éternel se sert de la pensée des hommes pour les confondre justement dans leur orgueil, dans leur puissance et leur désir de domination. Voilà. Après, je vais modérer mon propos, car des femmes...
qui se dressent par désir de domination et de puissance, il y en a. Et on en a vu dans la Bible, et il y en a toujours eu. Donc, je veux dire, attention, ce que j'ai bien aimé, c'est ce que le mot que vous avez utilisé après, je pense que l'Éternel se donne à voir dans l'inattendu. Et ça peut aussi bien être l'étranger, le malade et l'enfant. Voilà, pas forcément la femme. Voilà. Mais c'est souvent, l'Éternel se révèle dans là où on ne l'attend pas. Voilà. Et quelquefois même, comme pour le récit du Samaritain dans le Second Testament, par le frère ennemi. Le Samaritain étant, pour celui qui est par terre, son frère ennemi. Et c'est lui qui va le sauver. Donc, voilà. Donc, on peut se dire que la bienveillance, parfois, passe par celui qu'on n'aime pas. C'est pour ça que Jésus insiste pour dire d'aimer son prochain, d'aimer celui qui s'approche de nous, alors que tout nous destinait à ne pas l'aimer. Je ne sais pas si je suis claire, là, oui.
C'est vrai, bon.
La fin de la soirée, quand même.
Est-ce qu'il y a d'autres questions ou réflexions?
Certaines suffragettes américaines disaient, au lieu du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la mère, la fille et le Saint-Esprit.
Mais, mon cher, les suffragettes n'ont rien inventé. Que l'Éternel lui-même l'a dit. Alors, je ne connais pas ma Bible par cœur, mais au moment de la création de l'humain, dans la Bible, Dieu dit, l'Éternel dit, faisons l'homme à notre image. Masculin, féminin. Donc, pourquoi est-ce que l'Éternel a plutôt une figure masculine? Parce que ce sont les hommes qui, pendant des siècles, ont brossé un portrait masculin. S'il fallait refaire l'histoire et que c'était les femmes qui écrivaient la Bible, je suis sûre qu'elles seraient noires, femmes, peut-être même prostituées, on ne sait jamais. Hein, je veux dire, bon, voilà. Donc, je veux dire, il y a quelque chose aussi de culturel dans la projection que nous avons sur Dieu. Hein, je veux dire, et que, en même temps, nous sommes aussi, pas forcément prisonniers, mais nous sommes dans un langage qui est un code, et qu'il est très difficile de dire il et elle en même temps. Donc on fait un choix. Et les sociétés depuis longtemps, et notamment la société autour de la Bible, rendue par les auteurs bibliques, a toujours privilégié le masculin. Voilà. Donc Dieu a ce visage masculin. Mais si on écoute ce qui est raconté dans Genèse 2, faisons l'homme à notre image, mâle et femelle, c'est bien qu'il y a du féminin en Dieu. Donc je veux dire, voilà, si les femmes sont aussi le reflet de l'Éternel, c'est, à mon avis, c'est pas par hasard. Voilà, mais il faut pas, ça a été très vite gommé. Mais ça a été gommé par qui? Ça a été gommé par les humains, par les hommes. Ça n'a pas été gommé par l'Éternel. Hein, je veux dire, aujourd'hui, chez les protestants, où il y a des femmes pasteurs, on se dit, comment l'Église catholique peut-elle se passer de femmes dans son ministère, puisque Dieu lui-même ne se passe pas des femmes? Mais bien sûr, ça viendra, mais il faut être patient avec les humains.
Ce sujet va être soulevé le 10 décembre par le rabbin Garay, qui nous parlera « Dieu est-il homme, il, elle ou ?» Alors, donc, ce sera un vaste sujet, certes, et effectivement, même si dans la tradition juive, on a le sentiment que les femmes sont un petit peu mises à part, ça c'est sûr, mais à part aussi pour des choses vraiment bien, ne serait-ce que peut-être pour se rattraper, c'est de dire que les femmes n'ont pas vraiment besoin de prier parce que nous portons cela en nous. Même ce recette, n'est-ce pas, les amis, juive, il y a quelque chose qui fait que donc la femme a une place, et puis justement, les femmes rabbins commencent à exister. Donc, il faut laisser le temps à une transformation, effectivement, d'un masculin qui était là aussi pour protéger les femmes. Mais dans cette protection, ça a été quand même très un peu fort et un peu loin. Voilà, et maintenant, les femmes prennent leur place.
Je voulais simplement rajouter, suite à Dieu, homme ou femme, rappeler le fameux tableau de Rembrandt, Le retour du fils prodigue, où le père, qui donc le fils est à genoux devant son père, qui pose les deux mains sur ses épaules, il y a une main de femme et une main d'homme. Ça, c'est, il y a beaucoup qui ne le savent pas. Et c'est très net. Voilà. J'en profite puisque j'ai mes cours, si tu me permets, Eliane, d'annoncer, justement par un roman, je n'ai pas fait exprès, le Andreas Loff, notre ancien pasteur de Chambéry, va venir faire une conférence à Chambéry, au temple de Chambéry, rue de la Banque, le 19 novembre, sur Rembrandt et la Bible.
Merci.
À 20h.
Ce n'est pas une question que j'ai à poser, c'est simplement une précision sur le rituel qu'on rencontre par rapport à certaines choses que vous avez annoncées. Notamment, au tout début, vous avez parlé du chapitre 31 des Proverbes et de la femme idéale. Je voudrais dire à tout le monde, pour qu'on se connaisse mieux, que dans le vendredi soir, après avoir accueilli le Shabbat pour ceux qui vont à la synagogue, en rentrant, quand on a eu la chance d'avoir été éduqué correctement, le rituel recommande de chanter avant le repas, toujours pour l'accueil du Shabbat. Et dans ces mélodies, ces chants, ces cantiques, il y a d'abord ce chapitre 31 qui est chanté d'une façon que l'on aime beaucoup lorsqu'on a la mélodie qui est rentrée depuis l'enfance. Et je voudrais vous chanter la manière, évidemment. Vous ne pouvez pas apprécier comme quelqu'un qui, depuis son enfance, l'a chanté, mettons, pas tous les vendredis soirs, mais souvent le vendredi soir. Et ceci se place dans l'ordre suivant. Avant de parler d'un immense sage qui s'appelle Bar Yochai, on commence par chanter la femme idéale. On donne la priorité à la femme dans l'ordre de la soirée, où il y a au minimum trois chants. Et ce chant sur la femme, je vais vous citer simplement les premières phrases. Eshet ha'il mimtza ve'rachok mipilini mikra matahba lebala v'esha, etc.
Bravo.
Deuxième chose, vous avez parlé de la traversée de la mer des joncs. Et que Moïse a recommandé, a entonné un cantique. Il faut que vous sachiez que dans toutes les synagogues du monde, le matin de chaque Shabbat, on chante Asya Shir Moshe Ubnei Israël. Et Hashirazot l'Adonai vayo merulemo Hashir l'Adonai, etc.
Est-ce qu'on finit par un chant, c'est ça? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui veulent s'exprimer et...
Je voudrais simplement c'est... annoncer la cérémonie Bicette, si vous permettez.
Alors, les annonces après, on les fait. C'était, on remerciera d'abord.
D'accord.
Si vous vouliez dire quelque chose, pardon. Dans les portraits de femmes que vous avez dressés, vous avez parlé souvent de ruses et de stratagèmes. J'ai remarqué quand même dans quelques épisodes, l'homme utilise aussi une ruse, en particulier quand la femme est très belle. Et alors, quand elle est très belle, le mari la fait passer pour sa sœur. Alors, je voulais savoir comment vous interprétiez cette...
Alors ça dépend de qui on parle, parce que si par exemple vous parlez d'Abraham, le premier qui est à ma connaissance, hein, voilà, dans Genèse, il fait passer sa sœur, sa femme pour sa sœur, parce que pour sauver sa vie. Et en fait, sa femme est sa demi-sœur. Donc on peut aussi, ça c'est mon interprétation un peu perso, hein, donc voilà, mais nos amis juifs peuvent me corriger s'ils savent autre chose mieux que moi, évidemment. Quand il, à mon avis, il joue sur un statut, là, voilà. Pour moi, c'est aussi une des raisons sans doute pour lesquelles elle est aussi stérile, parce que je veux dire, si elle passe pour sa sœur alors qu'elle est sa femme, je veux dire, ça doit être un peu compliqué pour elle pour concevoir un enfant d'un homme qu'elle doit considérer comme son frère, enfin, qui la donne volontiers à l'ennemi pour sauver sa peau. Enfin bon, je trouve que tout ça c'est un peu compliqué. D'autant que Abraham va le faire deux fois. Alors après, j'ajouterais aussi que quand on lit la Bible attentivement, etc. et tout, notamment le Cantique des Cantiques ou des poèmes d'amour, etc. et tout, souvent la femme est appelée sœur par son mari pour dire l'intimité, la proximité, même le côté charnel, quoi, de cette proximité de l'amour aussi. Donc il y a de ça aussi, hein, voilà. Ce qui est très curieux, c'est que Isaac va faire la même chose aussi. Donc le fils d'Abraham va aussi, à un moment, donner sa femme comme sa sœur. Donc voilà, je ne sais pas plus. Peut-être que des amis peuvent dire plus. Je ne saurais pas expliquer plus.
Eh bien, on va vous dire un très très grand merci, parce que vraiment c'est un immense travail. Merci beaucoup pour ce travail que vous avez fait. Nous avons eu la chance de pouvoir écouter.